Je remercie Monsieur Compagnon et Madame Mauriac d'avoir m'associé à ce, de m'avoir associé à ce colloque. Et je remercie mon collègue Mathieu Vernet pour son aide informatique. Donc, lorsque j'ai proposé ce titre initial, Proust et Drummond, et je pensais à l'affaire Le Moine par Michelet, qui était un double pastiche de Drummond et de Michelet, publié en 1908. Mais comme j'ai eu tout récemment l'occasion de commenter ce texte, je voudrais aujourd'hui remonter un peu plus haut, à l'époque de l'affaire Dreyfus. Et il faudrait pourtant expliquer pourquoi j'ai choisi cette période chronologiquement un peu trop éloignée de la publication du premier volume de La recherche du temps perdu. Dans la journée d'étude du 1er juin consacrée à la mémoire de l'affaire Dreyfus, Éric Marty et Pierre Birnbaum ont montré avec beaucoup d'érudition et beaucoup de finesse l'impact de l'année 1898 qui se prolongeait chez Gide et chez Léon Blum jusqu'aux années 30. Et ces communications m'ont donné envie de revisiter l'année 1898 de Proust. En effet, le côté juif de Combray, qui a été magistralement commenté par Antoine Compagnon dans son cours Proust en 1913, a des racines profondes dans la vie et l'œuvre de Marcel Proust. Son écriture du judaïsme et de l'antisémitisme dans la recherche est la conséquence d'une réflexion qu'il a commencée sur son identité juive au sein de la crise dreyfusienne de la fin du XIXe siècle. En examinant quatre textes composés entre 1898 et 1900, et je voudrais, dans cet exposé, réfléchir sur le rapport entre l'affaire Dreyfus et la genèse de l'esthétique proustienne, ou pour mieux dire, le rapport entre l'antisémitisme déclenché en janvier 1898 par J'accuse et la pétition des intellectuels et la construction d'une identité juive à travers la création littéraire chez Proust. Il faut d'abord constater que le thème des Juifs chez Proust ne date pas de l'affaire. Dans un double pastiche de Flaubert et de Drummond, publié quelques mois après un grand procès du scandale de Panama, dans la Revue Blanche de juillet-août 1893, Proust réunit des clichés antisémites qui réapparaîtront dans la recherche. Cet exemple qu'on pourrait considérer abstraction faite d'un texte mineur de 1892 comme la première apparition du thème des Juifs chez l'écrivain montre que pour représenter les Juifs et la judéité, il a besoin d'une voix des antisémites. L'affaire Dreyfus survenue l'année suivante bouleverse ce système de représentation. Dans la section de Jean Santeuil consacrée à l'affaire et rédigé au sein de la crise dreyfusienne, Proust évite systématiquement de mentionner les Juifs et la question de l'antisémitisme. On n'y trouve aucune mention de la première phase de l'affaire pendant laquelle le capitaine Dreyfus était considéré comme un traître légalement condamné. Aucune référence à Bernard Lazare, le premier des Dreyfusards, qui a publié son mémoire en 1896. L'essentiel de la section est consacré au procès Zola, en particulier aux dépositions du colonel Picard. Ainsi, tout au long de son roman, Proust déjudaïse l'affaire et se tait sur le bouleversement qu'il a subi face à la montée de l'antisémitisme de cette période. Mais on peut trouver quelques rares exceptions. Je me contenterai d'en examiner deux qui datent de 1898. D'abord, un fragment rédigé peu après l'annulation du procès Zola par la Cour de cassation le 2 avril. Et juif ne comprenant l'antisémitisme et partisan de Dreyfus ne comprenant le jury d'avoir condamné Zola. Aussi est-ce une violente et agréable secousse dans notre esprit où se trouvent désormais joyeusement installés en haut rang, des lits chassés et humiliés pour n'avoir pas assez de respect pour notre propre sentiment. Quand nous lisons une lettre de M. Boutroux disant que l'antisémitisme est abominable, que les juifs sont autant que les chrétiens. C'est le seul endroit où Proust, suspendant la narration de son récit fictif, s'exprime ouvertement en tant que juif sur l'antisémitisme déclenché en 1898. La lettre de Boutroux mentionnée dans ce passage renvoie à celle que le philosophe a adressée à son disciple Elia Levi. Elle a été publiée immédiatement après, dans le temps du 27 janvier. Voilà le texte. Le début de cette lettre montre la situation bouleversée. « Vous me demandez, écrit Boutroux, quels sont mes sentiments en présence des désordres auxquels nous assistons, notamment au sujet des manifestations qui se sont produites sur la place de la Concorde ?» En effet, la publication de J'accuse et des manifestes des intellectuels avait provoqué de violentes réactions antisémites. Le paroxysme a été atteint le dimanche 23 janvier, où ont surgi 7 émeutes anti-juives. À Paris, une grande réunion prétendument patriotique a été tenue dans la salle des Mille Colonnes, rue de la Gaîté, en vue de défendre, selon la libre parole, la France déjà si éprouvée par les scandales et les razzias des financiers juifs et judaïsants contre l'attentat prémédité qui pouvait amener sa ruine définitive en la livrant aux ennemis de l'intérieur. À la sortie de la réunion, Jules Guérin et Georges Thiébaut se sont rendus, accompagnés de Boucher de la Villette, à la place de la Concorde. Et devant la statue de Strasbourg, Thiébaut a donné lecture de l'ordre du jour voté à l'unanimité aux Mille Colonnes. Et voici le texte. Le peuple de Paris, soulevé contre les souteneurs d'un traître qui a vendu à l'étranger les secrets de la défense, dépose au pied de la statue de Strasbourg l'hommage de son irréductible foi dans l'avenir. Il prononce la mise hors la loi de ceux qui partisent avec la juiverie universelle pour corrompre la République, déshonorer l'armée, ruiner le pays et maintenir la France sous la domination des agents étrangers. Vive la vieille France républicaine libre, debout et purifiée. Et entre-temps, on a posé au pied de la statue une couronne ornée d'un ruban tricolore sur laquelle on lisait « Vive la France, à bas les traîtres ». C'est notamment au sujet de cet acte commis au nom du peuple de Paris que Elia Levi a demandé une opinion à son maître. Dans sa réponse, Boutroux condamne la confusion de l'antisémitisme et du patriotisme. Et voici le passage auquel Proust fait allusion. Quel sens pourrait donc avoir dans notre pays cet accouplement monstrueux ? Vive l'armée, à bas les juifs ! Et cela devant l'image de Strasbourg. L'armée est la force organisée en vue de la conservation de la patrie. Et la patrie chez nous, c'est le respect de la dignité humaine et l'égalité civile et politique de tous les citoyens. On s'étonnerait grandement à l'étranger si de tels égarements avaient quelques généralités et quelques durées. Qui sait si quelques âmes faibles ne se demanderaient pas « Est-ce bien encore la France que nous portons dans notre cœur et à qui nous sacrifions notre tranquillité, notre sécurité ?» Nos joies de famille. Ces mots du grand philosophe ont touché Proust. Il l'avoue ouvertement dans Jean Santeuil. C'est l'unique allusion à ses origines juives dans les 13 fragments consacrés à l'affaire Dreyfus. L'émotion de l'écrivain devient encore plus compréhensible lorsqu'on remonte à un article de presse qui restait inconnu des chercheurs jusqu'à récemment. L'ouvrage antisémite déclenché en janvier n'a pas épargné Proust, qui était signataire et animateur de la pétition des intellectuels. Il s'agit d'un article publié sous la signature JF dans la libre parole du 23 février 1898, soit la date de la condamnation de Zola. Et voici le texte. Dans cet article, avec certains collaborateurs de la Revue Blanche qui viennent de publier un anathème contre Barès, Proust et Comte, dans ce que l'auteur appelle une poignée de juifs nouvellement débarqués dans ce pays. Il n'oubliera jamais cet article qui devait toucher sérieusement sa relation avec Barès, comme le montre une lettre adressée 7 ans plus tard à Robert Dreyfus. La Libre Parole avait dit qu'un certain nombre de jeunes juifs, entre lesquels M. Marcel Proust, etc., on y sait Barès. Pour rectifier, il aurait fallu dire que je n'étais pas juif et je ne le voulais pas. Ce contexte pris en compte, on peut mesurer le poids du silence qu'il garde obstinément dans son roman sur la question de l'antisémitisme et sur son origine juive. Le second exemple est un fragment rédigé 7 mois plus tard, lors de la publication des protestations Picard à la fin de novembre. En décrivant une conversation entre M. et Mme Santeuil sur le colonel Picard, Proust se penche pour la première et la dernière fois sur les répercussions de l'affaire dans sa propre famille, en particulier sur le sentiment de sa mère relatif à cet événement. À la différence de l'exemple précédent, Proust ne mentionne pas ici les juifs et l'antisémitisme. Il ne fait d'ailleurs aucune allusion à l'origine juive de sa mère. Et pourtant, on peut entendre certains bruits des tempêtes antisémites de 1898 dans une variante inédite du texte. Voici le texte. C'est la fin de la citation que j'ai mise en italique. Je cite. Un moment après, Jean qui venait d'arriver, ayant déclaré qu'il voulait envoyer une adresse au colonel Picard, Madame Santeuil le lui défendit, car elle craignait que cela ne lui fît du tort. Et Jean, agacé de sa tristesse, irrité de sa défense, déclara qu'il n'aimait pas les gens qui agissaient avec hypocrisie. Comme elle les sentait les plus forts, elle n'aurait pas voulu exposer à leur violence son mari et son fils. Et c'est pourquoi elle avait défendu à Jean de signer une adresse au colonel Picard. Dans sa colère, Jean l'avait accusé d'hypocrisie. « Je vais signer une adresse au colonel Picard », s'écria Jean. La crainte de Madame Santeuil à propos de leur violence reflète manifestement l'atmosphère tendue de cette période. Le 25 octobre, la France métropolitaine a été, comme l'a minutieusement montré l'historien Pierre Birnbaum dans son livre sur l'antisémitisme de 1898, le théâtre des émeutes antisémites les plus graves de l'année après celle de janvier et février. On peut donc supposer que Madame Santeuil-Proust craint que la signature de son fils à la protestation en faveur du colonel Picard ne cause une attaque antisémite verbale comme lors de la protestation de janvier en faveur du capitaine Dreyfus. Dans ce fragment de Jean Santeuil, Proust s'efforce de sauver la voix étouffée de sa mère qui n'a signé ni la protestation Picard ni l'appel aux femmes de France et qui échappera à jamais au registre historiographique. En décrivant l'expression de la charité dans le visage de Madame Santeuil, Proust écrit « De telles femmes ne font aucunement partie de l'histoire écrite de l'humanité. » Leurs noms ne paraissent même pas sur les livres de la charité. Et un peu plus loin, il revient sur le sujet des femmes considérées comme une partie non écrite de l'histoire. Or, il me semble que cette réflexion sur l'histoire, esquissée dans le contexte précis de l'affaire Dreyfus, est liée à un incident de la vie privée de Proust, qui laisse d'ailleurs plusieurs traces dans Jean Santeuil. Par exemple, dans le même fragment, il évoque la figure de Madame Santeuil devenue subitement celle d'une malade qui souffre. Et dans un autre fragment de Jean Santeuil consacré toujours à l'affaire, Il emploie la comparaison d'une vieille mère malade abandonnée. Il est difficile de ne pas reconnaître des échos de la grande opération chirurgicale suivie par Madame Proust le 6 juillet, la veille du grand discours de Cavaignac et une semaine avant l'arrestation du colonel Picard. Et dans sa correspondance, l'écrivain évoque sans cesse cet incident bouleversant, même jusqu'à la fin de l'année. Et on sait, grâce à une page du carnet 1, qu'après sa mort le 26 septembre 1905, Madame Proust apparaît dans un rêve de l'écrivain et fait allusion à cette opération de juillet 1898. C'est ce grave incident de la vie privée, survenu au moment le plus critique de l'affaire Dreyfus, qui aura donné au romancier l'occasion d'approfondir à l'encontre de la science historique de la période sa réflexion sur ce qu'il appelle l'histoire non écrite et sur la disparition d'une mémoire familiale juive qu'entraînerait la mort à venir de sa mère. Deux, me semble-t-il, ce regard contemplatif sur une soirée familiale et sur des gestes et sur des expressions futiles de sa mère qui sont vouées à l'oubli complet, à la différence de l'affaire historique en cours, pendant laquelle chacun cherche à laisser ses traces en inscrivant bruyamment son nom sur des listes de pétitions. Ces deux exemples de Jean Santeuil ont montré comment la fièvre antisémite de 1898 avait posé chez Proust la question de la représentation de sa propre identité juive. Deux textes rédigés au lendemain de l'abandon du roman et consacrés respectivement à Gustave Moreau et John Ruskin témoignent que les ondes de choc produites par l'affaire se prolongent dans les idées esthétiques de l'écrivain. Dans le fragment sur Gustave Moreau, mort le 18 avril 1898, qui a été composé, selon Kazuyoshi Yoshikawa, vers 1899, Proust, pensant à Baudelaire et Chateaubriand, définit les poètes en ces termes. Je cite, « Le reste de leur vie est une espèce d'exil souvent volontaire. Ils sont des exilés intellectuels. Dès qu'ils sont exilés, ils ont perdu de même coup le souvenir de leur patrie et savent seulement qu'ils en ont une, qu'il est plus doux d'y vivre, mais ne savent comment y revenir. » Masafumi Ogro a déjà remarqué un écho de l'affaire dans l'adjectif intellectuel qui est récurrent dans ce texte. Il est en effet fort probable que Proust pense aux Dreyfusards comme Anna de Noailles et Zola, condamnés et exilés en Angleterre entre juillet 1898 et juin 1899. D'ailleurs, cette réflexion sur la patrie ne serait pas étrangère à la fondation de la Ligue de la patrie française qui venait d'avoir lieu à la fin de 1898. Mais derrière ces échos de l'affaire, il faudrait peut-être voir l'image intériorisée d'Israël. Un texte publié l'année suivante montre un autre aspect de la survivance de l'affaire chez Proust. Voici le texte. C'est un article publié sous le titre « Ruskin à Notre-Dame d'Amiens » dans Mercure de France d'avril 1900. Proust compare ici la Joconde de Léonard de Vinci successivement à une naturalisée française, à une admirable sans patrie et à une déracinée en l'opposant à la Vierge dorée de la cathédrale d'Amiens qui ne serait qu'une amiénoise condamnée à la sédentarité non artistique. Il est évident que l'écrivain juif et Dreyfusard emploie à rebours la terminologie barésienne antisémite répandue lors de l'affaire pour se dresser contre les antisémites, en particulier contre l'auteur des Déracinés. Plus tard, pour décrire l'ascension sociale de Madame Swann dans un manuscrit de Combray de 1909 qui a été minutieusement commenté par Antoine Compagnon dans son cours Proust en 1913, il utilise des comparaisons analogues. Fraîchement débarqué d'Orient, la mère de Swann avait encore cette instabilité, ce goût du nouveau, cette souplesse de l'organisme grâce auquel un voyageur, à peine arrivé dans un pays nouveau, entreprend une excursion, comme il n'aurait ni la force, ni le goût, ni même l'idée d'en faire dans le lieu de sa résidence et de ses habitudes. On se souviendra que la libre parole classée Proust parmi les écrivains juifs anti-barésiens de la Revue Blanche, considérée comme une poignée de juifs nouvellement débarqués dans ce pays. Le portrait du personnage juif féminin dressé dans le manuscrit de Cambrai de 1909 était donc préparé par Proust à la sortie de la crise dreyfusienne, au cours de l'élaboration de son esthétique inspirée de façon critique du discours antisémite. Autrement dit, pour construire son identité juive au moyen de l'écriture, le romancier a besoin de la langue ennemie. De ce point de vue, l'influence de Barrès n'est pas moins importante que celle de son maître Édouard Drummond. L'esthétique de Proust, qu'on pourrait qualifier provisoirement de cosmopolite, est pour une large part tributaire de la conception barésienne de l'art fondée sur l'autochtonie. Cet enchaînement du discours antisémite et de l'esthétique cosmopolite chez Proust est parallèle à celui de l'antisémitisme drummondien et du sionisme dans la France de l'affaire Dreyfus. Si les années 1897-1898 qui ont engendré sur la même base démocratique les protocoles de sages de Sion et l'état juif de Théodore Herzl constituent, comme l'a montré Pierre Nora, la plaque tournante de l'identité juive, c'est dans les années qui les suivent immédiatement que Proust commence à dégager une autre conséquence de l'affaire. Dans les deux textes de 1899 à 1900 que je viens de citer et qui montrent clairement le passage des années politiques aux années esthétiques chez l'écrivain, tout se passe comme si l'artiste et l'œuvre d'art étaient définis sur le modèle des Juifs assimilés, dont les racines étrangères lointaines ont été réveillées par le choc de l'affaire Dreyfus. Ce ne serait pas un hasard si Proust définit la poésie dans la même période et précisément dans le plus tardif des 13 fragments consacrés à l'affaire Dreyfus dans Jean Sainteuil, comme la commémoration du passé, lequel est déjà une sorte de commémoration. Pour que le thème du judaïsme pratiquement exclu de Jean Sainteuil apparaisse massivement dans À la recherche du temps perdu, il faudra attendre l'assimilation des exégèses bibliques d'Émile Malle et de John Ruskin. Mais parallèlement, Proust ne cessera jamais de s'inspirer pour forger son esthétique du discours antisémite et xénophobe de Barrès et de Léon Daudet, tous deux disciples de Drummond et témoins de la dégradation de Dreyfus. Si, comme nous avons essayé de le montrer, l'affaire a exercé une influence profonde, complexe et durable sur la formation de l'esthétique chez Proust, peut-on penser que son judaïsme s'incarne essentiellement, non pas dans ses descriptions souvent caricaturales de personnages juifs, mais dans sa poétique, dans sa narration, dans son style? C'est ce que certains lecteurs juifs ont soutenu depuis les années 20 sur les traces du critique barésien Albert Thibaudet, qui avait reconnu dans le style de Proust la mobilité et l'inquiétude d'Israël. Mais n'oublions pas que la même interprétation pouvait servir aux lecteurs antisémites de Proust, tel Pierre Doriot La Rochelle en 1940, de proscrire de la littérature française la recherche du temps perdu, considérée comme dépourvu de jaillissement authentique de la verve traditionnelle. Je vous remercie de votre attention.